à Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission un peu spéciale. J'ai cru devoir consacrer l'émission à la visite du pape Jean-Paul II en France et ses visites qu'il va faire à plusieurs tombeaux de saints. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Le pape Jean-Paul II arrive à Tours dès demain vers 11h moins quart, à l'heure de là-bas évidemment, et il sera accueilli par le président de la République française. Ça crée bien des problèmes. Pourtant, ce n'est qu'un simple accueil et c'est tout ce qu'il va faire. Il n'aura rien d'autre à faire. Il y aura un petit entretien à la préfecture, peut-être une demi-heure. Et dans l'après-midi, vers 7h, plutôt vers 5h de l'après-midi, à 17h, le pape va arriver à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans le diocèse de Luçon, à la basilique de Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort. Il fera un message sur la vie consacrée. Je suis déjà allé à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est extraordinaire, c'est dans une vallée, c'est superbe, c'est à voir, hein, c'est un endroit à visiter. Il repartira quelques heures plus tard, 2 heures plus tard. Alors, pour ce qui est de Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, je crois bien que nous le connaissons presque tous. C'est le fondateur des Montfortins. C'est un saint qui a eu une dévotion très particulière à la Sainte Vierge et qui a mis en garde quand même les dévots à la Sainte Vierge et qui leur a rappelé les vraies et profondes vérités chrétiennes, à savoir que quand le Christ nous enseigne à prier, il nous enseigne évidemment à prier le Notre Père. Et toute la liturgie de l'Église, même les jours des fêtes de la Sainte Vierge qui sont nombreuses, heureusement d'ailleurs elles sont très belles, eh bien nous célébrons tous ensemble à travers le monde l'Eucharistie qui s'adresse à Dieu, notre Père, par l'intercession de son Fils, éternel, incarné Jésus-Christ, avec une mention très simple du nom de la Sainte Vierge, et lors des fêtes de la Sainte Vierge, évidemment, des rappels des grands moments de la vie de la Sainte Vierge, de ses grandeurs, des grâces qui lui ont été accordées, et des merveilles que Dieu a accomplies en elle. Le vendredi 20 septembre, le pape rendra visite au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, où j'ai eu encore l'occasion d'aller, c'est dans le diocèse de Vannes. C'est donc en Bretagne, cette péninsule, comme la plupart le savent, n'est-ce pas, cette immense péninsule, qui est presque un pays, qui s'avance dans l'océan Atlantique et qui se dirige, on pourrait dire, vers l'Amérique du Nord, vers nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de nos ancêtres sont partis des environs de la Bretagne. Beaucoup de Bretons sont venus s'établir ici et évidemment beaucoup de Normands dans la province voisine. Sainte-Anne-d'Auray est un lieu de pèlerinage qui ne semblait pas à prime abord extrêmement important. La basilique n'est pas très très grande. Elle est de style gothique récent. Et ce qui m'a beaucoup plu quand j'y suis allé, nous étions peu nombreux à l'heure où j'y suis allé, et c'était l'audition d'une bande sonore presque sans fin et qui nous donnait des chants grégoriens ou bien de la musique d'orgue. Et c'était très beau. C'était vraiment magnifique. Ça crée une espèce d'ambiance de calme, de paix, de sérénité, de prière même. Et ça empêche les gens, on dirait, de parler à haute voix et de déranger ceux qui sont en prière. Cette basilique est donc dédiée à Sainte-Anne, qui est évidemment, je le rappelle au cas où certains auditeurs connaîtrait mal la religion catholique et la religion chrétienne, qui est la mère de la Vierge Marie et donc la grand-mère de Jésus. Il y aura là une messe et un repas avec les évêques de la région ouest, donc avec l'archevêque de Tours, c'est-à-dire avec l'archevêque, l'évêque de Vannes, et certains membres du clergé de cette région, dans l'ouest de la France, du côté de l'Atlantique. Il y aura la rencontre avec des jeunes couples et leurs enfants. Et le lendemain, le samedi, une eucharistie qui sera célébrée à la base aérienne de Tours. Tours, c'est la ville très importante pour nous du Québec qui sommes ici depuis des siècles, car c'est un peu le cœur de notre, de nos origines, de même de nos origines nationales, car beaucoup de nos fondateurs viennent de cette région. Et à Tours, il y a là un archevêque, Monseigneur Honoré, qui est un des intellectuels les plus brillants de l'Église de France, qui a écrit beaucoup sur le cardinal Newman, ce grand penseur anglican devenu catholique au siècle dernier et devenu cardinal. L'archevêque de Tours, je l'ai dit en passant, m'a reçu plusieurs fois chez lui. C'est un homme extrêmement sympathique, extrêmement gentil. Et Tours, c'est une ville vraiment à visiter. C'est un endroit où aller. Et c'est là que le pape ira, donc, ce samedi 21 septembre, pour y célébrer une Eucharistie à 10h30. Saint-Martin de Tours est vraiment un des grands saints français. C'est le personnage, si on peut dire, de qui a toujours été populaire en France. Et d'ailleurs, on dit partout où le Christ est honoré, Martin de Tours a son nom. Il y a des tas de villages, d'églises, de lieux, d'endroits qui honorent Saint-Martin. C'est une popularité fantastique qui est attribué finalement à un soldat, car c'était un soldat, qui est devenu moine et qui est devenu évêque. En France, il y a près de 500 localités qui sont nommées d'après lui, Saint-Martin, de toutes sortes de choses. Près de 4000 paroisses qui portent son nom. Et sur sa personnalité, son ami Sulpice Sévère, un historien, nous renseigne d'ailleurs. Il nous parle de ce Saint-Martin de Tours qui a vécu de 317 à 397. Et c'est là, essentiellement, que le pape Jean-Paul II va aller pour honorer ce grand personnage. Il est né dans la Hongrie actuelle. C'était le fils de vétérans. S'est enrôlé malgré lui dans les armées de l'Empire romain. Et l'épisode le plus connu de sa vie, tout le monde le sait, hein? Ça se place aux portes d'Amiens, en France. Il y a une belle cathédrale à Amiens, une autre ville à visiter. Durant un hiver très très rude, l'hiver de 338 à 339. Alors il était cavalier, il était à cheval donc, il rencontre un pauvre. Vous vous souvenez, hein? Il lui donne la moitié de son manteau. On peut se demander pourquoi il ne lui a pas donné au complet. Il lui a donné quand même la moitié de son manteau. Et c'était un manteau d'honneur, au fond, car il était officier. Et à partir de là, bien tout bascule. Martin se pose en objecteur de conscience. Il se demande, a-t-on le droit de tuer un homme? Évidemment que dans des moments de guerre, pour la défense, c'est différent, mais là, c'était peut-être pour des conquêtes, hein? Et alors, il s'est posé la question, qui est une question extrêmement importante et qui est souvent discutée dans l'Église, à savoir si les gens qui sont dans l'armée peuvent être de véritables catholiques. Évidemment, oui, quand il s'agit de défendre vraiment contre des barbares, contre des ennemis épouvantables, non seulement l'honneur d'un pays, c'est pas ça qui est important, mais la vie des citoyens. La vie des citoyens. Alors Hilaire de Poitiers, l'évêque de Poitiers, saint Hilaire de Poitiers, l'a introduit dans le clergé. Et après avoir converti sa mère dans son pays natal, Eh bien, Saint-Martin de Tours est devenu moine à Ligugé. Ligugé, c'est une abbaye qui a été fondée, comme vous voyez, très très tôt. Et elle est toujours là. C'est presque un miracle. Il y a toujours des moines bénédictins à Ligugé. Ce sont des moines bénédictins de la même congrégation que ceux de Saint-Benoît-du-Lac. J'y suis allé plusieurs fois. Il faut avoir un peu de patience au début parce qu'il y a un train. Le train qui passe au bout du terrain de l'abbaye. Alors au début, on entend ce train à chaque fois qu'il passe à toute allure. Mais les moines ne l'entendent plus. C'est étrange ce phénomène de l'ouïe qui fait qu'on dirait que les oreilles n'entendent plus certains bruits, même occasionnels, mais habituels. C'est curieux. C'est très bien organisé finalement, notre cerveau, notre ouïe, que Dieu a fait de grandes choses même dans ces petits détails. C'est merveilleux. Alors, il devient évêque de Tours en 371. Alors il veut résider dans son monastère, Marmoutier. Il y a des ruines à Marmoutier, à Tours. On peut les visiter. On voit que c'était immense. On voit que l'église était vraiment très très grande. C'était un évangélisateur des campagnes que ce Saint-Martin de Tours. C'était un évêque qui a converti les païens, quoi. Ado d'âne, ado de mulet, car les évêques se promenaient évidemment pas en voiture. Vous savez que le cardinal, archevêque de Paris, se promenait en deux chevaux, c'est-à-dire une toute petite bagnole de rien du tout. C'est comme ça qu'il est mort, elle est restée prise sur une voie ferrée. Il a été tué. Cardinal Marty, que nous avions interviewé, Marcel et moi, Marcel Brisebois, à rencontre à la télévision de Radio-Canada. C'était un homme qui avait l'accent de l'Auvergne, un accent un peu paysan. Et c'était étonnant, il était archevêque, cardinal de Paris. Et alors, à dos d'âne ou de mulet, bien, Saint-Martin de Tours parcourt les provinces de la Touraine, évidemment, du Berry, de l'Auvergne, justement, au sud, d'où venait le cardinal Marty, archevêque de Paris, et le Saint-Onge, la région de l'Île-de-France, donc la région de Paris, la vallée du Rhône aussi, qui descend vers Lyon. Et finalement, il meurt et on l'inhume à Tours, où son tombeau est devenu un centre de pèlerinage. Et il s'est posé la question, si on pouvait convertir le diable. Il dit, quelques-uns de nos frères témoignent avoir entendu le démon injurier Martin avec insolence. On raconte ça. Satan lui reproche d'avoir admis au monastère des postulants qui, avant d'être moines, ont perdu la grâce de leur baptême. Et pour chacun d'eux, le Satan, comme on dit, développe toutes sortes de griefs possibles, des accusations insensées. Saint Martin le réfute. Il objecte avec assurance que les fautes passées se trouve absoute, parce que quand il était soldat, il a commis des fautes, évidemment de grandes fautes, et elles ont été absoutes par un retour à une vie meilleure, et aussi surtout, comme il dit, par la divine miséricorde. Alors, selon lui, ceux qui ont cessé de pécher se trouvent pardonnés par grâce pénitentielle. Le diable soutient le contraire. Pas de pardon pour les criminels, dit-il. Et alors, une fois tombé, plus d'indulgence à leur égard, dit-il. Et Saint-Martin rétorque, écoutez bien, ça c'est très beau. Misérable, si toi-même, un jour, tu cesses de tenter les hommes pour les faire tomber. Si, aujourd'hui, tu te repens de tes fautes, j'ai tellement confiance dans le Seigneur Jésus que je n'hésite pas à te promettre le pardon. D'après certains auteurs, on a dit qu'il avait été soldat par force, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, évêque par devoir, mais à la base, il était un moine bénédictin par choix. Et ce Martin a été ce grand évêque missionnaire, plutôt démocratique, et tout près du peuple rural de la région. Et nous verrons tout à l'heure où le pape va aller finalement le 22 septembre dimanche, quand il ira à Reims au tombeau de Saint-Rémy. Je voudrais vous parler de Saint-Rémy, l'évêque de Reims. Je tiens un peu à en parler d'autant plus que mon nom de famille porte le nom de la région où est Reims, mes ancêtres venant de la Champagne. Ce Saint-Rémy, au tombeau duquel mes ancêtres sont sans doute allés comme les ancêtres de nombreux Québécois, a été, semble-t-il, le 17e évêque de Reims. Il est très connu. Il est très connu surtout parce qu'il a eu l'honneur de baptiser le roi franc Clovis. Nous sommes mal renseignés sur sa vie. Il a reçu une lettre de Saint-Sidoine Apollinaire qui était écrite vers 475, car Saint-Rémy est mort vers 530, très âgé. Il se voit félicité de ses talents d'écrivain. Il est encore jeune. Il est mort quand même à 96 ans. On prétend qu'il aurait peut-être été évêque dès l'âge de 22 ans. C'est peut-être possible. Il aurait été évêque de Reims pendant une énorme période de temps, comme vous voyez. C'est incroyable. À l'avènement donc de Clovis comme roi franc a tourné c'est en Belgique aujourd'hui, vers l'été ou l'automne de 482, bien Saint-Rémy lui a adressé des félicitations puis ses conseils. On a le texte signé de la main de Saint-Rémy. Voici un extrait de ce texte. Une grande nouvelle nous est arrivée. Vous venez de prendre en main le gouvernement de la Belgique seconde. Il n'y a rien de nouveau à cela. Vous commencez d'être ce qu'ont toujours été vos pères. L'important, c'est que la justice de Dieu ne chancelle point chez vous. Vous devez vous servir de conseillers capables d'orner votre réputation. C'est-à-dire de préserver votre réputation de bon chef d'État, quoi. Vous devrez avoir de la déférence pour vos prêtres et recourir toujours à leurs conseils. Les bons prêtres, évidemment, pas les mauvais. Si l'harmonie règne entre vous et eux, votre pays en profitera. Secourez les affligés. Ayez soin des veuves. Nourrissez les orphelins. Que tous vous aiment et vous craignent. Vous aiment et vous craignent. Pas vous craignent simplement. Qu'ils craignent donc d'être indignes d'être les citoyens, les sujets de ce roi. Et Saint-Rémy ajoute que votre prétoire, c'est-à-dire l'endroit où vous logez, si vous voulez, soit accessible à tous, et que personne n'en sorte triste. Toutes les richesses de vos pères, ajoute Saint-Rémy, vous les emploierez à libérer les captifs et à délier le lien d'esclavage. Si l'on est admis en votre présence, que l'on ne s'y sente pas un étranger. Et il ajoute quelque chose de très surprenant, Saint-Rémy. Pensez que ça a été écrit à 1500 ans. Jouer avec les jeunes, délibérer avec les anciens. Alors, Saint-Rémy a donc fort bien été accueilli par Clovis. Et d'après un auteur très ancien, le pseudo-Frédéguerre, c'est Saint-Rémy, qui aurait été le bénéficiaire dans l'épisode célèbre du vase de Soissons. Je le rappelle parce qu'on parle souvent de ça dans l'histoire qui entoure ces personnages. Le vase de Soissons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des soldats francs. Clovis était un roi franc. Hein. Donc, des soldats francs qui avaient dérobé un grand et beau vase du mobilier liturgique. Et l'évêque, Saint-Rémy, le fait réclamer au roi qui réussit non sans opposition de la part d'un jeune guerrier cervelé, à le restituer. Et le jeune guerrier a été vertement semoncé. C'est tout simplement ça. On a retrouvé le vase de Soissons. On parle souvent de ça en littérature. De toute façon, c'est pas tellement important. Lorsque la Gaule du Nord est conquise par Clovis, parce que la France n'était pas encore formée, Rémy est vraisemblablement le grand intermédiaire entre la population puis le haut commandement. Il a dans son diocèse plusieurs résidences royales. Mais ce prince reste païen. Il s'agit donc de le conquérir pacifiquement au Christ. Et Clovis, d'ailleurs, n'a-t-il pas un intérêt plutôt politique à se convertir? Ben oui, au milieu des rois ariens, donc considérés par les catholiques comme des hérétiques et des schismatiques, les ariens. Au milieu donc de ces rois ariens et même des rois païens, il trancherait s'il devenait catholique, il rallierait les éléments soumis à l'influence des évêques. Ça peut être intéressant sur le plan politique. Et c'est, semble-t-il, la fameuse bataille dite de Tolbiac. Tout ça est remis en question aujourd'hui par les historiens, mais enfin. Donc, c'est, semble-t-il, cette bataille dite de Tolbiac qui détermine sa conversion. Les Francs plient à ce moment-là, là, sous la poussée des Alamans, et Clovis, très inquiet, a peur de perdre, et il invoque le dieu de Clotilde, son épouse, qui est une catholique, sainte Clotilde. C'est une amie de l'évêque de Reims. Elle est peut-être même dirigée par cet évêque de Reims, Saint-Rémy. Alors l'ennemi, les Alamans, ils font volte-face. On pense que c'est en 497, donc ce serait l'anniversaire simplement l'année prochaine. Et Clovis, vainqueur, se dit qu'il aurait à faire volte-face lui aussi et à tourner le dos au paganisme pour aller au Christ. Et ce serait un demi-tour assez délicat à exécuter, alors il a des entretiens secrets avec Saint-Rémy. Et puis ça diminue ses appréhensions. Mais il reste un point noir, là. Il y a la garde de Clovis, qui est païenne, ils sont très très nombreux, ce sont des guerriers d'élite, ce sont des gens qui sont l'honneur puis la force du roi. Alors comment vont-ils prendre sa renonciation au vieux dieu de la guerre, les dieux qui enseignent que la guerre est une excellente chose et qu'on peut conquérir, etc. Ce sont des dieux païens, et des dieux qui flattent au fond les instincts guerriers de tous ces gens-là. Alors là, il leur parle de son projet. Puis ils applaudissent à sa grande surprise. Et tout joyeux, dit-on, Saint-Rémy commande les préparatifs du baptême. Alors on dit que c'est à Reims que ça s'est fait. Bon, d'autres disent que ce serait peut-être à Tours. Mais les auteurs croient vraiment que c'est à Reims. Et alors Reims, dit-on, a pavoisé la cathédrale. Et puis, la ville, et la cathédrale d'ailleurs prend sa parure de fête à l'intérieur, et le baptistère illuminé, parfumé pour le baptême, là, semble aux assistants comme un endroit paradisiaque. Les baptistères étaient grands à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui, où on a simplement un petit endroit pour baptiser, c'est réduit à sa plus simple expression souvent dans nos églises. Pas dans toutes les églises, heureusement. Et Saint Grégoire de Tours, le fameux Saint Grégoire de Tours, a raconté la cérémonie officielle. Voici son texte. Le nouveau Constantin, voyez-vous, il le compare à Constantin, cet empereur de Rome qui s'est converti au catholicisme. Le nouveau Constantin s'avance vers le bain, on comprend, hein? Parce que c'était un bain, on se trempait vraiment dans l'eau. C'était un baptême par immersion. Alors quand il est entré dans le baptistère, le Saint de Dieu lui dit, Saint-Rémy, lui dit de sa bouche éloquente, courbe doucement la tête, sicambre. C'est un terme plutôt poétique et archaïque. Bon, passons outre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Alors Saint-Rémy, évidemment, c'est un évêque d'une grande science. Il a fait des grandes études de rhétorique, il excellait aussi par sa sainteté. Et puis, il avait, dit-on, autant de vertus que le pape qui a baptisé Constantin, le pape Sylvestre. Donc, le roi ayant confessé Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Trine, est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est oint du Saint-Crème, avec le signe de la croix du Christ. De son armée, on baptisa plus de 3000 hommes, dit Saint Grégoire de Tours. On ignore, à vrai dire, le lieu et la date du grand événement. On a proposé Tours, mais Reims semble beaucoup plus probable. La date du 25 décembre 496 est communément reçue. Pourtant, bien des historiens croient que c'est plutôt 98-99. Il y a même des partisans de l'an 506. Bon, passons. Alors, nous avons des lettres de Saint-Rémy autour de tout ça, et on raconte qu'un évêque a écrit « Votre foi est notre victoire. Vous prêcherai-je la bonté active lorsqu'un peuple, jusqu'à ce jour captif, célèbre la vôtre par des transports de joie devant l'univers et par des larmes devant Dieu. Je ne forme plus qu'un vœu, puisque Dieu, par vous, va faire de votre peuple entièrement son peuple, déverser du bon trésor de votre cœur les semences de foi aux peuples voisins qui, vivant dans leur ignorance naturelle, n'ont pas été corrompus par les germes des doctrines mauvaises. On voit tout ce style où on pense que cette conversion va amener bien des transformations en France. Il y a une sœur de Clovis qui est baptisée en même temps, meurt peu après. Alors Rémy adresse au roi ses condoléances, puis il exerce au courage. Et puis, il lui dit que la défunte, grâce à son baptême, est auprès de Dieu. Et nous verrons tout à l'heure ce qui s'est passé par la suite. Je termine avec la vie de Saint-Rémy. Saint-Grégoire de Tours, qui a écrit sur Saint-Rémy, nous dit que Saint-Rémy a été évêque pendant 70 ans ou même davantage. En fait, on croit que ce serait peut-être 74 ans. De toute façon, sa mémoire est demeurée en France très importante, puisqu'il était évêque de Reims, là où les rois ont été sacrés à travers les siècles. Il avait su capter Clovis et son armée. Il avait su les convaincre, les amener à la foi catholique. Plus tard, la France et l'Église lui ont été très reconnaissants d'avoir inauguré, en somme, une entente entre le clergé et le gouvernement. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a séparation de l'Église et de l'État en France. Et il faut rappeler que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Rémy serait devenu évêque à 22 ans. Bon, c'est fort possible. Hein? Rien n'est impossible. Et à l'heure, donc, où on dit que la nation française, mais c'est l'Église, qui se dispose à célébrer Clovis puis ses origines, il y a un mot de Péguy qui prend tout son relief. Péguy dit « Rien n'est petit dans l'ordre de la fondation ». On appelle ça la fondation de la France, mais ce n'est pas vraiment la fondation de la France. Si l'attention se porte d'abord, dit Monseigneur Honoré, l'évêque de Tours, sur le premier roi franc, puis le baptême qui a légitimé son pouvoir, il convient de ne pas le séparer de celui qui l'a précédé dans la mémoire collective des habitants. Saint-Martin, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est très important. Ça va ensemble. Et même Saint-Martin, je dirais, est plus important. Le destin, donc, du premier roi franc demeure lié à une espèce d'ascendant moral que s'était acquis, en fait, l'ancien légionnaire romain Martin. La jeune monarchie franque a reconnu que Saint-Martin était son patron. Et les Capétiens ont rendu un grand hommage plus tard à ce Saint-Martin. Et le comité pour la commémoration des origines de la France, cette année, a eu raison d'unir dans le même souvenir ces deux figures, celle du conquérant, puis celle du moine, celle du roi, quoi, puis celle de l'évêque. Saint-Martin. Jean-Paul II s'y est pas trompé, d'ailleurs. Qui va venir et à Reims et à Tours, mais il vient surtout, je vous le rappelle, à Tours. On parle beaucoup de Reims, mais c'est à Tours. Pour Saint-Martin. C'est là qu'il devait aller, d'ailleurs, tout simplement au début, et on a ajouté les autres endroits. Saint-Laurent-sur-Sèvre, Sainte-Anne-d'Auray et Reims. Clovis, qui était baptisé à Reims, offre le symbole du premier souverain, initiateur et fédérateur de la nation. Un symbole. Hein? C'est un symbole qui s'attache à Martin, peut-être davantage, car c'est celui, chez Saint-Martin, d'un humanisme évangélique qui nous rappelle Saint-François d'Assise. Saint-Martin lègue à la nation française le modèle d'une fraternité sans frontières. Si Clovis fonde son royaume sur les débris d'un empire qui se défait, Saint-Martin, moine de Marmoutier, évêque de Tours, apporte à la nation nouvelle qui se cherche, il apporte lui la marque d'une culture qui appartient, comme dit Blaise Pascal, à un autre ordre, c'est celui de la charité. Et pour reprendre encore le langage de Péguy, leur inscription dans l'histoire, dit Mgr Jean Honoré, archevêque de Tours, leur inscription dans l'histoire, si différente soit-elle, a fait l'événement, c'est-à-dire l'avènement d'un peuple. Avec Clovis, c'est la nation qui s'assure de ses frontières et de sa continuité. C'est donc une célébration beaucoup plus politique que chrétienne. C'est la nation française qui s'assure de ses frontières et de sa continuité par les conquêtes que Clovis fait. Avec Saint-Martin, c'est la nation qui s'ouvre aux horizons d'une charité qui est universelle et qui n'a point de barrière, mais plus de frontières. L'un, par son baptême, a inscrit le temporel dans l'éternel, si on peut dire. Et l'autre, par sa vertu, Saint-Martin, a inscrit l'éternel dans le temporel. Qui oserait prétendre qu'une telle évocation de Clovis et de Martin soit aujourd'hui anachronique? C'est pas anachronique. En un temps où cette grande histoire ne faisait que balbutier, ces deux grands personnages ont mis leur empreinte, l'une de courage politique et l'autre de sainteté, sur le destin de la France, dont nous sommes ici au Québec héritiers. La très grande partie de la population du Québec vient de France. Et nous sommes heureux d'avoir accueilli tous ceux qui se sont joints à nous. Et nous voulons partager avec eux notre fierté, notre joie. Un peu comme si nous, Québécois, lorsque nous immigrons en Italie, ou même en Suède, vous savez qu'il y a des Québécois qui vivent en Suède pour toujours, eh bien ils adhèrent aux idéaux de ces nations. Et ils deviennent fiers. Pourquoi les immigrants ne partageraient pas notre joie d'être d'origine française? Oh, sans renier leurs origines, évidemment, sans renier leur fierté, c'est normal. De toute façon, ces jours-ci, la commune célébration des deux gloires nationales donne tout son sens à ce grand mémorial des origines des Français et au fond de nos origines à nous Québécois dits de souche. Dans le creuset des incertitudes puis des mouvances du temps, a écrit Mgr Jean Honoré, archevêque de Tours, ils ont forgé l'un et l'autre et chacun sur son registre la première esquisse en laquelle la France a découvert son identité. Cette identité dont le grand historien Fernand Braudel a pu dire qu'elle suppose toujours, et je cite Braudel, une prise en main de la France par soi-même, une nation ne pouvant être qu'au prix de se chercher elle-même sans fin. C'est vrai qu'une nation se cherche sans fin. Ce pèlerinage du pape nous rappelle ce qu'écrivait dans la presse Gilles Houd. Selon certains historiens, le tourisme religieux serait probablement la plus vieille forme de tous les produits touristiques. Et en France, la fréquentation totale annuelle des sites religieux dépasse, selon les estimations, 50 millions de visiteurs. 50 millions de visiteurs, dont près de 9 millions pour des motifs strictement religieux. 9 millions pour des motifs strictement religieux en France. Environ 57% des monuments protégés par classement ou inventaire de l'État sont des édifices religieux qui sont souvent des lieux ou de pèlerinage ou de vénération religieuse. Ces statistiques sont de 1995. Elles sont produites par le Centre d'information religieuse de Paris. Donc, à l'occasion de ces célébrations que le pape va faire, le 19 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le 20 à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, pour souligner le 350e anniversaire de la découverte de la statue de Sainte-Anne par le paysan Nicolas Sigic, après qu'il a eu des visions de la mère de la Vierge Marie, puis le lendemain, samedi le 21 septembre, c'est la magnifique ville de Tours qui recevra Jean-Paul II, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour commémorer le 1600e anniversaire de la mort de Saint-Martin, son saint patron. Et dimanche, le pape se rend à Reims, le 22, pour nous rappeler que le premier roi de France a été sacré dans cette majestueuse cathédrale, en grande partie restaurée, qu'il aurait été baptisé ou sacré en 496 par l'évêque Saint-Rémy. Et par la suite, presque tous les rois de France, vous savez, ils sont venus faire leur couronnement. Vous savez qu'il y aura des pèlerinages énormes, des foules qui vont se déplacer. Et malheureusement, quelques protestataires qui ne semblent pas être capables de comprendre l'essentiel de tout ça. Dans la messe de dimanche prochain, alors que le pape sera à Reims, il y a des lectures qui sont tout à fait en rapport, par hasard. Est-ce un hasard? C'est cette lecture du livre d'Isaïe, où il est dit que les pensées de Dieu dépassent nos pensées. Et elles reviennent à confirmer les pensées de Jean-Paul II sur des questions comme sur l'avortement. Et sur bien d'autres choses, sur la famille, sur la vocation primordiale de la femme. Oh, les gens n'aiment pas ça. Et les femmes n'aiment pas se faire rappeler leur vocation primordiale. Qui n'empêche pas le pape de considérer que les femmes peuvent prendre les rênes d'un État, peuvent être députées, peuvent être, pour ainsi dire, tout, mais qu'elle a quand même une vocation primordiale. La lecture du livre d'Isaïe, c'est ainsi, « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le, oui, invoquez-le, tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et la deuxième lecture, qui est brève aussi, c'est une lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. « Frères, pensez au pape, qui se dévoue et qui est très malade. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. » En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un avantage, mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ. Mais c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ. Très beau texte de Saint Paul qui peut s'appuyer, qui peut s'appliquer au pape Jean-Paul II. Nous verrons tout à l'heure d'autres détails au sujet du pape. Je voudrais vous parler de lui. On sait que le pape est attaqué
très violemment. Dans Le Devoir avant-hier, Normand Baillargeon se permet d'écrire en page éditoriale, donc dans Le Devoir, un article intitulé Popol, P-O-P-A-U-L, Popol en Chiraki, à cause de Chirac, abat la calotte. Et c'est terrible. J'ose pas trop vous écrire, vous dire ce qu'il a écrit. Il dit simplement, pour ma part, je n'aime pas les commémorations, les discours, les médailles, les flonflons. Il dit toutes sortes de choses. Il dit même du cardinal Lustiger, il l'appelle vieille ordure. Je ne comprends pas que dans un journal sérieux on publie de tels articles, qui manquent de nuances. Je demanderai à Normand Baillargeon, et aussi à Lise Bissonnette, que je respecte beaucoup, la directrice du Devoir, qui a déjà écrit sur mes émissions rencontres à la télévision des choses extrêmement louangeuses. C'est une femme qui a, à mon avis, une immense intelligence, mais je ne comprends pas qu'elle ait commis cette erreur, comme ça s'est fait encore déjà quelquefois. Peut-être donne-t-elle trop de liberté à certains journalistes, trop, qui rabaissent le niveau de ce grand journal qu'est Le Devoir. De toute façon, je ne crois pas que dans Le Monde ou dans d'autres journaux, on écrirait des articles aussi pénibles. Non pas qu'on ne puisse pas critiquer cette visite, on peut apporter des arguments, mais je trouve incroyable le ton. Le ton. Car quand on lit dans le magazine Time de la fin de l'année 94, dans ce numéro de Time où le pape a été nommé Man of the Year, on peut y lire des choses absolument admirables. Des journalistes qui l'ont rencontré, des journalistes extrêmement compétents, parlent de son humanité, de sa vigueur mentale, de sa piété, de son humour et de son charme personnel, de cet entêtement charmant, ce qui a fait dire à des gens que le pape est en somme l'ultime rempart contre la décomposition totale de l'humanité. L'ultime rempart, pas l'unique. Des millions de gens luttent partout le monde pour respecter les vraies valeurs humaines. Humaines. Je ne parle pas des valeurs spirituelles, j'en parlerai tout à l'heure. Les valeurs humaines qui font que l'on respecte l'enfant à naître, que l'on respecte l'enfant naissant, que l'on respecte le malade, le petit, l'itinérant. J'aime bien quand je vais dans une église sur la rue Mont-Royal et qu'à l'occasion il y a des itinérants couchés dans les derniers bancs. J'offre leur ronflement à Dieu durant la messe. Ces pauvres gens qui sont comme le Christ abandonné, maltraité. Vous direz, ils se maltraitent eux-mêmes. Où est l'autonomie de ces gens? Ils sont blessés à mort presque. Ces pauvres gens. Et l'Église nous enseigne le respect de tout homme. L'Église nous enseigne le don de nous-mêmes. Mais c'est pour ça qu'à Montréal, il y a tant d'organisations catholiques qui s'occupent des plus pauvres. Et c'est dans l'univers entier, je les ai vus. Et ça me rappelle une entrevue que j'ai faite avec Michel Régnier, ce grand cinéaste de l'Office national du film, qui a fait près de 100 films extraordinaires sur le tiers-monde et sur les malheurs des plus pauvres. Et qui nous disait à Rencontre à la télévision, lui qui est incroyant, je crois même qu'il se dit athée, et qui disait que c'est à l'Église catholique qu'il faut offrir des dons pour aider les plus pauvres à travers le monde, car l'Église sait comment se servir, presque toujours, où il y a des erreurs, il y a des pécheurs dans l'Église, mais sont peu nombreux. Quand il s'agit de l'argent des pauvres, et quand il s'agit de la distribution de cet argent ou de l'application à l'aide aux plus pauvres partout à travers le monde. C'est l'opinion de Michel Régnier, ce cinéaste. Et le pape a été nourri de tout ça depuis sa jeunesse. Et il transmet au monde entier ce message évangélique profond. Constamment, ce qu'il dit est admirable. Qu'il suffise, je recommanderais ça à Normand Baillargeon, de se procurer chez Iris Diffusion. Jean-Paul II, passez une année avec moi, ce sont des méditations quotidiennes, mais jamais ne lirai ça, c'est sûr. Mais il dit à un moment donné, en page 234, « Nous sommes tous convaincus que l'homme ne saurait être vraiment homme que par sa culture. » Je me demande si Normand Baillargeon en a vraiment une. « Que par sa culture, par sa liberté de croître intégralement et avec toutes ses capacités spécifiques. » Et un homme qui recherche vraiment une telle croissance est également investi d'une dignité et d'une liberté souveraine, comme il convient à un être qui a été créé à l'image de Dieu et racheté par le Christ. Il est évident qu'une dramatique distance menace de croître entre l'Église et les différents mouvements culturels qui se développent dans le monde, tandis que le monde moderne est fasciné par ses propres conquêtes et réalisations scientifiques. Il a en même temps relâché ses relations avec l'Évangile et donné crédit à des idéologies et critères éthiques sans la moindre concordance avec lui. C'est pourquoi le Concile Vatican II a voulu que l'Église tout entière écoute l'homme moderne pour le comprendre et envisager une nouvelle forme de dialogue qui permette au caractère original du message évangélique de pénétrer en même temps les esprits et les cœurs. Il y a deux aspects généraux et complémentaires de la question qui correspondent aux deux dimensions dans lesquelles agit l'Église. L'évangélisation des cultures est l'une de ces dimensions, l'autre étant la défense de l'homme et son développement culturel. Et il termine en disant, « Il faut que l'Église devienne tout pour tout le monde. Nous avons devant nous un long et important processus d'inculturation pour que l'Évangile puisse pénétrer au fond de l'âme des cultures vivantes. Encourager ce processus, c'est répondre aux profondes aspirations des peuples et les aider à gagner la sphère de la foi elle-même. Et j'aimerais bien que des journaux comme Le Devoir et les autres respectent les vraies valeurs que l'Église transmet. Les vraies valeurs qui sont d'ailleurs transmises sur les ondes de Radio Ville-Marie, qui sont transmises avec énormément d'intelligence souvent. Il faut quand même en finir. Il faut vraiment en finir avec des attaques gratuites. Ça ne peut plus continuer. Peut-être faudrait-il lire Le complexe anti-romain de Hans-Urs von Balthasar, ou encore de Hans-Urs von Balthasar, aux croyants incertains, publié chez Le Tielu. Il y a tant d'ouvrages admirables qui ont été publiés, qui méritent d'être lus, lus et relus. Ô Père Tout-Puissant et Miséricordieux, vous appelez toutes les nations divisées par le péché à se rassembler sous le joug très doux de votre Fils bien-aimé, Jésus, le Roi de l'univers. Nous croyons que seul votre esprit d'amour et de vérité peut renouveler la face de la terre et tout restaurer dans le Christ. Qu'il vienne au secours de notre patrie, qui vous offense et s'éloigne de vous, faisant appel à votre miséricorde infinie. Nous vous demandons pardon pour elle. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, nous vous en supplions, sauvez nos pays, sauvez notre pays.